Mulhem, la tragédie du magnétisme. Le public du parterre et des amphithéâtres avait accordé sa bruyante approbation aux prouesses d'une foule d'acrobates, de jongleurs et d'équilibristes. Dans le pourtour promenade, messieurs les dandys, d'âge divers mais tous trop jeunes, s'étaient montrés fort attentifs aux grâces exigées par les demoiselles du corps de ballet. La première partie du spectacle s'était ainsi passée sans rien d'exceptionnel. Ce fut seulement vers 11 heures que la fleur du beau monde de Boston fit tout à coup irruption aux places encore vides des premières galeries. Des essaims de jolies femmes développèrent bientôt sur l'hémicycle une guirlande continue de légères toilettes d'été, guéfouillis de nuances claires, s'harmonisant sur un fond de gentlemen en habit noir, et dès lors une animation heureuse s'épanouit dans la salle, où le coup d'aile des éventails jetait des frissons parfumés, et les flammes des astres rejaillirent plus intenses sur le luisant des soies et des parures. Les éclats de rire furtifs voltigeaient comme des étincelles sonores dans le feu croisé des causeries. Tout semblait en amour prendre un air de fête pour célébrer la première séance de magnétisme donnée sur la scène de l'Alhambra par le célèbre docteur Clogg et son merveilleux sujet, Miss Olivia. Cet empressement aristocratique s'expliquait par le lyrisme et l'insistance des réclames dont la presse de Boston retentissait depuis plus d'un mois à propos de cette solennité. Sur la foi de renseignements authentiques, ces feuilles plaçaient Miss Olivia au premier rang de l'hallucination contemporaine et tressaient au front de cette mémorable demoiselle une couronne d'épithètes démesurément superlatives. Quant au docteur Kellogg, ce n'était pas seulement le plus infaillible, le plus audacieux des expérimentateurs. Il ne se bornait pas à prouver indubitablement ses terribles facultés fascinatrices. Il avait de plus le mérite de dévoiler à la fin de chacune des représentations et de mettre à portée de tout le monde les supercheries, les artifices, les grossiers semblants de somnambulisme et de double vue, par lesquels de vulgaires charlatans, affublés du titre de magnétiseurs, trompent d'ordinaire le public. C'en était assez pour attirer la curiosité générale. Mais les publicistes signalaient bien d'autres causes d'attraction. « Monsieur Kellogg, rédigeait-il tout bas, confidentiellement, en déroutant la sagacité du lecteur par quelques lettres capitales ou par diverses peines, mais indicatrices très tracées en tête des paragraphes, M. Kellogg, amoureux d'Olivia, la torturerait sans pitié pendant son sommeil factice et se vengerait ainsi de l'indifférence dont elle l'accable dès qu'elle reprend possession d'elle-même au réveil. » En outre, imprimait-on, beaucoup d'attention serait accordée à certains jeunes gentlemen européens très ténébreux, très mystiques, originaires des brouillards d'Écosse, se montrant, croyait-on, se nommant, croyait-on, Lord Barner, lequel poursuivait Olivia dans tous ses voyages à travers l'Amérique et ne manquait jamais de prendre place dans une première loge d'avant-scène, dès que Miss Olivia montait sur le théâtre, parce qu'il l'adorait et se croyait adoré d'elle, seulement lorsqu'elle entrait dans l'état de catalepsie. Par suite, il existait, entre le diabolique docteur et le noble étranger, une guerre sourde de haine et de jalousie. Une querelle semblait possible, un conflit devenait probable. Un duel était certain, et les spectateurs couraient chance à tout moment de voir se réaliser l'une de ces redoutables éventualités. Enfin, et par surcroît, la chronique faisait ressentir, avec d'affolantes références, réticences, le rôle joué dans cette affaire par une belle et jeune patricienne, Lady Warner sans doute, laquelle assistait invariablement à toutes les soirées de Kellogg dans la loge d'avant-scène faisant face à celle de Lord Walter. Et là, toujours parfaite élégance, selon la dernière mode, mais toujours calme, toujours dédaigneuse du mouvement d'admiration que provoquait sa présence, elle attachait sur son mari des regards obstinés. Elle notait ses impressions les plus fugitives. Elle recueillait une par une les marques de son absurde passion. Et tout cela dans un bruit dont but dans le mobile avait échappé jusqu'alors aux plus habiles investigations. Or, la gentry, réunie ce soir-là à l'Alhambra, croyait à l'exactitude de ses piquantes indiscrétions. La Gazette des étrangers avait d'ailleurs annoncé, quelques jours auparavant, l'arrivée de Lord et de Lady Warner, sans négliger d'ajouter qu'ils n'étaient pas descendus au même hôtel. Et maintenant même, au moment du lever du rideau pour les expériences de M. Kellogg, les deux loges d'avant-scène étaient encore inoccupées, comme si les deux époux en guerre s'étaient réservés d'y prendre au moment décisif leur poste de combat. Aussi le vif brouhaha des conversations s'en allait immédiatement augmentant dans la salle ruisselante de lumière, et l'impatience universelle atteignait à sa limite extrême quand l'orchestre attaqua les majestueux accords d'un prélude qui fut pour l'assemblée le signal d'une série d'émotions dont la véhémence allant d'ailleurs singulièrement dépassé tout ce qu'on avait pu prévoir. Les premières notes avaient à peine vibré que Lord Warner venait s'asseoir sur le devant de la loge de droite. Les lorgnettes ne pouvaient s'y tromper. Il était conforme aux esquisses tracées par les biographes. Il avait l'âge où les illusions ont encore le droit d'être des croyances. Son air, empreint d'on ne sait quelle mélancolique fierté de race, lui permettait d'offenser impunément la coupe du jour et de porter sans ridicule une sorte de deuil romanesque, volant en velours et dentelle, renouvelé de l'air byronienne, et ses yeux bleus et dormants, comme le grand lac triste de son pays d'Écosse, ses lèvres fines au sourire indécis, son front pâle entouré d'une chevelure tombante d'archange, avait un charme non terrestre, bien en rapport avec cet amour étrange, cette originalité psychologique que lui attribuaient les feuilles d'actualité. Ces détails, toutefois, furent à peine entrevus, car presque au même instant, Lady Warner venait d'entrer dans l'avant-scène de gauche et s'était installée bien en face, bien résolument en face de son mari. La véracité des reporters fut démontrée une fois de plus. Lady Warner semblait un astre détaché des sphères les plus raffinées du high life et parée de la grâce savante des lignes simples. Elle se serrait, svelte et pourtant modelée, dans une étroite robe de satin blanc, farfouillée d'un tourbillon de dentelle. Son chapeau n'était qu'une exquise fanfreluche de quipure prise dans une tonne de lilas blanc. Et sur toute cette neige, sur l'or clair de ses cheveux, l'anglaise, et sur le frais carmin de ses lèvres, dans le bleu noir de ses yeux de sphinx, rayonnait ce tranquille orgueil, cette différence et cette sérénité d'étoile qui vient aux femmes dans l'enivrement de leur beauté. Un émoi dans la salle justifia cette triomphante attitude de Lady Warner, et le concert de louanges suscité par son arrivée bruissait encore lorsqu'enfin le rideau se leva sur le décor d'une cour de jardin pleine de haute verdure, le fond de quel le fameux docteur Kellogg et l'éblouissant Olivia, se tenant du bout des doigts, s'avancèrent en cérémonie jusqu'à la rampe. Il y eut quelques applaudissements, de brefs bienvenus, mais en somme, l'illustre couple ne laissait pas que de causer, au premier aspect, une certaine déception. Miss Olivia, solide plébéienne, taillée en Hercule, femelle, paraissait un peu gênée des splendides épaules et des bras superbes que laissaient voir à nu les décolletés hardis de sa robe de bal en satin blanc. Oh, elle n'était nullement jolie, et la vulgarité de ses traits ne se sauvait que par la jeunesse du sourire armé de dents de perles entre des lèvres au ton de fraise. Individualité maigre, au contraire, figure sèche et longue, front fuyant, plaqué d'une chevelure trop noire, le docteur Kellogg, qui passait pour burlesque, n'était sa tenue sévère et son costume rigoureusement extrait d'homme du monde. Non, certes, rien d'anormal ni de fatal ne planait sur eux. Ils n'étaient pas de l'ancienne école de sorcellerie, et très modestement, ils affichaient le positivisme sans apparat qui doit présider désormais à l'exploitation pratique et raisonnée du surnaturel. Les musiciens firent silence, et M. Kellogg prononça quelques paroles dont l'éloquence faite n'était pas du tout d'un barnum ordinaire. Il annonça qu'avant de révéler, suivant ses promesses, ses misérables mystifications accoutumées des hypnotiseurs et spirites de bas étage, il allait évoquer la plupart des phénomènes réels et incontestables du trouble nerveux occasionné par le sommeil artificiel. Et sans plus de préambule, parmi les lueurs livides d'une lumière électrique tombant tout à coup des frises avec accompagnement d'un trémolo pathétique à l'orchestre, M. Kellogg étendit les deux mains vers Olivia. Rien d'abord. Le public, palpitant d'émotion, attendait muet, sans un souffle. Puis soudain, ce fut prodigieux. Frappée par le fluide, Olivia se dressait subitement, farouche, les yeux grandis dans une immobilité tragique, la bouche dessinant une terreur vague, profonde, étonnée. Son regard se fixait sur Kellogg, semblait aller au-delà de lui vers quelque vision menaçante éployée au loin. Un premier enchantement alors s'opérait. Miss Olivia, presque laide tout à l'heure, prenait une sorte de beauté sinistre, largement sculptée dans ce masque d'angoisse. Un être tout nouveau se manifestait de même dans la personne de Kellogg. Oh, ce n'était plus l'obséquieux débitant de magie bénigne, mais l'âpre savant, le chercheur tenace, brutal, au viol de tout mystère, prêt à fouiller jusqu'au cœur les plus noirs problèmes de la vie. Son dur profil, heurté aux angles par la clarté verte, semblait le tranchant d'une volonté de fer. Et puis, sur ses lèvres minces, aux sinuosités perfides, dans son œil flamboyant, à son sourcil perpendiculaire, dans ce front plissé, il n'y avait pas que de la rancune ou de la colère. Il y avait l'ironique pitié pour une femme, en d'autres temps sans doute indomptable et fière, maintenant si vite, si fièrement maîtrisée au premier signe d'un pouvoir inconnu. Elle tombait, en effet, par molle graduation, plus avant à chaque geste de Kellogg dans son bizarre sommeil de fantôme errant. L'air d'épouvante s'effaçait dans la pâleur de son visage, et elle montait l'hébétement morose du rêve. Elle avait l'allure automatique d'un corps où la pensée n'est plus. Elle marchait d'un pas souple de somnambule, comme portée sur l'éther. Elle reculait, elle tentait de fuir, et elle se rapprochait par bonds convulsifs, la poitrine soulevée de sanglots machinales. Les résultats les plus saisissants, les plus inattendus, les plus insensés de l'anesthésie se multiplièrent ainsi sous les yeux compilés du public. Plusieurs adeptes du mesmérisme parent répartis dans la salle et reconnaissables à leur physionomie spéciale d'ascète, échangeaient des sourires victorieux, l'influence despotique de Kellogg, les passivités inouïes d'Olivia ne laissaient pas le moindre prise à l'incrédulité. La science triomphait. Et soudain, un cri d'horreur courut. Kellogg s'était armé d'un stylet arraché à l'improviste du revers de son habit, et frappant haut, rudement, il avait implanté l'acier en pleine chair nue dans le milieu du bras gauche de l'halluciné, de ce bras d'athlète horizontalement roidi dans un effort où saillait le muscle. Penché hors de sa salle, Lord Warner s'abîmait dans une contemplation éperdue. Lady Warner, de son côté, persistait dans son souveraine placidité de grande dame, mais sa main fine, gantée de jaune très clair, battait un rythme légèrement nerveux sur le velours pourpré du rebord de la loge. Aucun frémissement n'avait altéré la sonore impassibilité d'Olivia. Pas un fibre n'avait tressailli. La chair traversée gardait autour de la plaie sa blancheur de marbre. On croyait voir l'absurde emblème du cauchemar au bras d'une statue de la nuit. Feindre un tel stoïcisme sous l'aiguillon de la douleur matérielle, alors c'était impossible. Le miracle, produit par des forces indéfinies de l'organisme, se montrait visible à tous. Initiés et profanes le saluèrent d'un long murmure de satisfaction. Mais beaucoup trop violent, cet épisode fut heureusement suivi de quelques scènes dans le genre attendrissant et poétique. M. Kellogg prit l'attitude empressée, calme, paternelle d'un médecin de femme aux heures de crise, et délivra ainsi Miss Olivia du poignard, puis il enveloppa la patiente d'une multitude de gestes doux qui la placèrent aussitôt dans un courant opposé de surexcitation, dont le but était scientifiquement parlant de favoriser l'épanchement d'un excédent trop considérable de nervosité. La musique servit de premier dérivatif à cette hyperesthésie. Miss Olivia se mit à chanter. Kellogg, agitant les mains derrière elle, l'ordonnait. Elle obéissait sans voir et fit entendre dans les notes sourdes du médium le début d'une légère élégie passionnée. Mais sur un autre signe très bref de Kellogg, la voix, au milieu d'une strophe, se brisa plaintive, étrangement fêlée, comme un appel désespéré au loin, sur la mer. Cette interruption Il fit comme un déchirement de tout lien dans le réel. Elle s'égara dans l'incertitude d'une tristesse haute. Ses paupières se relevaient, ses yeux resplendissaient comme ceux d'une matrone vers le ciel. Il semblait pleurer une de ces poignantes douleurs d'âme que nul ne peut définir. C'était l'extase, tout à fait l'extase, telle que la décrivent les physiologistes les plus accrédités. L'orchestre, dont le rôle sans doute avait été soigneusement réglé pour cette représentation, appropriait ses accords à la sublimité du ravissement d'Olivia. Le hautbois disait par phrases, tantôt joyeuses, tantôt lugubres, de sortes de récits dans le déroulement grave des cymbales et dans l'harmonie des arpèges tremblants sur les cordes grêles des violons. Insensiblement, le rythme frappé sur le thème fantasque entraînait l'hypnotisé aux évolutions d'une danse lente, très singulière, aux flexions subites, dessinant tour à tour des fiertés de déesse classique et des abandons de filles d'Orient. Saltimbanque de l'idéal, Olivia donnait une forme vivante à l'insaisissable pensée musicale et traduisait en ligne pure ou tourmentée, en mouvement gracieux ou fébrile, la gracieuse mélopée des symphonistes et, tournoyante avec des langueurs de vierge, ployée comme une faunesse ivre ou saisie d'un vertige sacré de pertresse, elle s'arrêtait enfin, haletante, effarée, le front baigné d'on ne sait quelle clarté d'enthousiasme. L'émerveillement de la foule et l'effervescence des adeptes étaient au comble d'ardentes salves d'applaudissements. Eussent bientôt éclaté dans le silence solennel si le docteur Kellogg, revenant à la rampe, n'avait pris la parole une seconde fois. Grâce à la concentration des effluves, expliqua-t-il en termes de savant, grâce encore à l'intensité prolongée de son exaltation, Miss Olivia venait d'entrer dans la phase de lucidité suraiguë. Oui, désormais, elle était capable de lire dans un livre fermé, de voir et d'entendre à travers n'importe quel obstacle. Elle pouvait deviner la pensée intime, accomplir les plus secrètes volontés de quiconque serait mis en communication avec elle. Et M. Kellogg offrit à tous de tenter l'épreuve. Mais aucun des spectateurs ne répondit à l'invitation. On laissait, d'un commun accord, le champ libre à Lord Warner, qui d'ailleurs s'était levé de la fin du spectacle de Kellogg et avait enjambé la balustrade de sa loge. « Encore vous, toujours ?»« Soit, oh, j'y consens, interrogez-la, » lui dit Kellogg avec un ricanement d'impertinence poli, où sifflait pourtant l'irritation. L'orchestre se tut, la salle amassa son intérêt comme dans l'attente d'un drame. Lord Warner parut n'apercevoir ni les façons cavalières de Kellogg, ni le lamentable excès de dédain que versait sur lui le regard toujours fixe de Lady Warner. Décidé, fanatique, il allait défier la raillerie par de grands airs de conviction. Olivia se retourna lentement vers lui, non surprise, non fâchée. Elle redevenait la mélancolique prophétesse, obsédée du poids des secrets. Elle retombait dans ce terrible sommeil, au regard béant, qui sans doute croit rêver la vie. Longtemps Warner s'oublia dans l'observation de l'énigme. L'indéfinissable tristesse d'Olivia le gagnait. Mais n'était-il qu'ébloui par l'auguste beauté de l'idole, ou cherchait-il en vain les causes de l'indicible souffrance qu'elle incarnait, ou bien encore leurs deux âmes, par une inconcevable pénétration, se parlaient-elles, gémissaient-elles sur leur amour sans espoir? À l'appui de cette dernière hypothèse, Lord Warner remit tout à coup entre les mains de la voyante une lettre strictement close, mais toute pleine, on en était sûr, de déclarations tumultueuses. Olivia, le front incliné, concentra sur l'enveloppe blanche l'attention de ses yeux mornes dont la flamme allait aux visions intérieures. Seul un pli courroucé des sourcils trahissait l'effort de cette lecture à travers les feuillets repliés. Lorsqu'enfin, parvenant à tout déchiffrer, à tout comprendre, elle se débattit soudain contre l'inertie qui l'enchaînait. L'amour, comme un orage, s'ameutait dans son sein et se révoltait. Elle voulut lire mieux cette lettre, être certaine de ne pas se tromper. Elle allait rompre le cachet. Mais, arrêtée par une connotation galvanique, elle se redressa dans une immobilité de granit. La lettre s'envola de ses degrés doigts gantés. Kellogg, attentif à l'arrière-plan, avait jeté dans l'air son geste impétueux, et la pathétique Olivia n'était plus que le sujet, l'instrument, le jouet stupide. Et tout ce que le plus noble amour arrêtait dans son vol, froissé dans son orgueil, renfermé de douleur, Lady Warner ne pouvait le lire en ce moment au front consterné de son mari. Mais le docteur se précipita d'un bond entre les deux amants. La colère blêmissait à ses joues creuses. Le rictus amer se tordait comme une écorchure entre ses lèvres contractées. « C'est assez, on a compris !» s'écria-t-il, retentissant d'insolence, tandis que Warner, refoulant mal le soulèvement d'une rage profonde, regagnait sa place. Il était trop certain que la lutte tant redoutée entre les deux rivaux devenait imminente. La salle ne respirait plus. « Et maintenant, poursuivit Kellogg, cette femme accablée par l'accumulation des fluides n'est plus rien qu'un simple appareil nerveux, une chair articulée dont la science agite à son gré et serre tous les ressorts. Regardez, regardez !» Et soulevé sur ses orteils sataniques, il projeta violemment en avant son bras plus maigre, plus long qu'un coup d'épée. Olivia se crispa dans une roideur de morte et tomba droit à la renverse, comme un arbre abattu de son socle. La tête fit un bruit sourd sur les planches, et Kellogg, invoquant on ne sait quelle atroce apparition d'Hamlet en démence, s'accroupissait sur le cadavre de cette autre Ophélie, broyait sous ses deux genoux le corps d'Olivia, qui, toujours plus froide, toujours plus pâle, sentait plus étrangement morte que jamais. Spectacle hideux ! Les hurlements d'épouvante et de dégoût couvraient le trémolo frénétique de l'orchestre quand le docteur Kellogg, abandonnant son proie, parla d'un verbe haut qui dominait le tumulte. Que craignez-vous? Qu'admirez-vous? Criait-il. Folie que toute cette pure illusion, simple charlatanisme, à la portée de tous et de chacun. Mais j'ai promis la vérité, je vais la dire. Il pérorait, sursautant à chaque mot fou de sincérité, certain de l'effet qu'il allait produire, et il cherchait dans les yeux de Lady Warner une marque d'approbation et grimaçait du côté de Lord Warner la moquerie et l'insulte. « La vérité, la voici, » continua-t-il. « Cette femme n'est pas magnétisée. Allons donc, ne croyez rien de pareil. Elle n'est ni somnambule, ni visionnaire. Elle est mieux que tout cela. Elle est la sublime comédienne, un clown incomparable, aux muscles d'acier, au sang-froid des reins. La menace, la flatterie, le fer, le feu, rien ne peut la distraire du rôle qu'elle joue. Rien ne peut vaincre sa formidable pouvoir de dissimulation. Examinez-la, maintenant, étendue dans sa robe de bal, dormant d'un sommeil de marbre, comme les statues des fiancés sur les tombes. Eh bien, mal sinagrée épique, comble de l'art, elle ne dort pas plus qu'aucun de nous. Elle entend chacune de mes paroles. Elle lutte avec acharnement, avec héroïsme, contre l'énorme éclat de rire qui lui monte à la gorge. « Mensonge, mensonge, infâme !» vociféra Lord Warner, affolé de désespoir et d'humiliation. « On ose dire mensonge !» poursuivit l'implacable Kellogg. « On veut des preuves, on les aura. Debout, Miss Olivia, c'est assez travaillé pour ce soir. La farce est jouée, debout !» Par quel soubresaut de gymnaste endiablé, Miss Olivia se trouva-t-elle rose et souriante à côté de son impresario? Personne n'aurait pu le dire. Une tempête d'applaudissements se déchaîna. La raison publique était en vengée par cet étourdissant coup de théâtre. Kellogg et Miss Olivia s'épanouissaient dans l'enivrement du triomphe. Les cris de réprobation d'anathème des adeptes se dissipaient dans l'ouragan des hurrahs préférés par la foule, lorsque tout à coup, au plus épais du vacarme, le fracas d'une détonation retentit dans la loge de Lord Warner. Le silence se rétablit, subit, effrayant. « Le malheureux, il croyait !» sanglota Miss Olivia dans une clameur de commisération non feinte. « Cette fois, où son être tout entier vibrait, il croyait, oui, l'infortuné, que par un suprême effort, descendit encore une fois de sa place sur la scène. » Il chancelait, il titubait déjà dans l'agonie. Il se raccrochait de la main gauche au bord de la loge et brandissait de l'autre main le revolver dont il venait de se frapper. Un long filet de sang coulait sur l'horrible pâleur de sa face. Et du profond de l'épouvante, on le trouvait beau, cet illuminé qui succombait pour sa foi, ce poète qui ne voulait pas survivre à son rêve. Mais pareille mort réclamait vengeance. Warner, effroyable d'énergie défaillante, visa Kellogg et fit feu, puis glissa veule et lourd sur le sol. Kellogg, rugissant, se heurta le front des deux mains, vira plusieurs fois sur ses talons et s'abattit à l'autre bout du théâtre. Il avait lui aussi le visage souillé d'un fausse tache rouge. Olivia restait seul debout, anéanti d'horreur entre ces deux agonisants qui tordaient les convulsions dernières. Alors un cri strident partit de la loge de Lady Warner. En fait, elle avait donc aussi quelques flammes de passion au cœur, cette rigide poupée d'Albion. jusqu'alors guindé dans sa rancune hautaine, plus souple qu'une nuée dans un flot de dentelle, elle fut d'une volée au milieu de la scène, pointant dans le sein de sa rivale un poignard que Miss Olivia, de sa main robuste, l'empêchait d'abaisser. Ces fougueux événements s'accumulaient plus rapides que l'éclair. On regardait oppressé, cloué par le vertige. La crainte d'un autre meurtre, pourtant, délia les langues. On appela à l'aide. Une bousculade se ruait au secours de ces femmes écumantes de haine de ces hommes que le râle étouffait. Le désordre tourbillonnait en un crescendo furieux. Mais quel soupçon, quel étrange soupçon tout à coup, dans l'immense ahurissement. Pourquoi les musiciens, penchés sur leur pupitre, insouciants de ce qui se passe au-dessus de leur tête, prolongent-ils ainsi le raclement funeste de leur trémolo? Non, l'on n'eut le temps de rien suspecter ni de rien prévoir. Tout ici s'accomplissait avec la folle promptitude de la foudre, et déjà de la noire situation surgissait à toute vitesse une pantalonnade furibonde. Les blanches toilettes de Lady Warner et d'Olivia étaient évanouies dans les dessous comme en une fête. On ne vit plus que deux riantes ballerines en torses voluptueux, en tulle transparent pailleté d'or aux jambes parfaites, hardiment dessinées par le maillot de soie rose. Dans le même instant, Warner et Kellogg, sous prétexte de frétillements macabres, sortaient en quelques cabrioles de leurs habits de cérémonie et, cadençant des gestes symétriques, ils lançaient aux frises la blonde tignasse d'archange, la sombre coiffe de douceur qui remplaçait de hautes perruques écarlates, et ils apparaissaient disloqués et tortueux dans l'accoutrement bariolé de battleurs prêts à la parade, et choyés d'acclamations en délire sur ce galop final sonné par l'orchestre à grand renfort de cuivre et de tambour. Les quatre clowns, tout à l'heure tragédiens hors ligne, se déchaînèrent en un gigue épileptique, en une bondissante pantomime, où les précédentes scènes d'incitation, d'incantation, d'effusion, de séduction, d'exaltation sautaient sur le mode grotesque. Fantoche désordonné, énergumène radieux, ils s'enfuirent enfin dans l'ouragan d'une ovation sans exemple, dont les transports continuèrent longtemps encore après la chute du rideau. Cet incomparable impromptu tint l'affiche pendant 100 représentations, avec d'autant plus de succès que les excellents artistes, maîtres de leur métier, alternaient avec un égal talent dans leurs rôles respectifs. Lord Warner savait être, quand il lui plaisait, le plus sarcastique des distributeurs de fluides. Kellogg, à son tour, ennoblissait de sauvage poésie les affres d'un amour impossible. Miss Olivia prêtait une rare dignité de reine au type de l'épouse outragée, et Lady Warner se montrait, sans contredit, la possédée la plus plastique des temps actuels. Le bruit court que le magnétisme américain ne se relèvera pas de cette facétie.